Bonjour à tous.
Bonjour.
Comment allez-vous? Ça va? Bien? Alors, quand j'ai salué certains ce matin, et je leur ai demandé comment ça allait, ils m'ont tous dit: mon frère, c'est la grâce de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Et vous savez pourquoi je l'aime? Parce que je l'ai à vie. Si c'est pas tes grâces pour Dieu, nous qu'est-ce pas là de vivre. Et cette grâce, elle nous est suffisante. La grâce a tout dedans. On n'a pas besoin de grâce plus. On a simplement besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais poursuivre ce cycle de prédication sur le sermon sur la montagne. Alors, précédemment, non pas dimanche dernier, parce que c'est notre sœur qui a officié concernant Portes Ouvertes, l'église persécutée, mais avant, c'était le pasteur Hans Peter Bolli qui a prêché sur les richesses matérielles et différents types de richesses, et a conclu sur Matthieu chapitre 6 au verset 24, qui dit que nul ne peut... J'aime quand on connaît ça, le texte. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et nous avons vu, et il a expliqué qu'il y a un vrai contraste, une incompatibilité absolue entre Dieu et Mammon. Aimer ou haïr, s'attacher à l'un, mépriser l'autre, il y a un choix à faire et l'Église, le domaine, affiche le choix de servir. C'est un petit Dieu, hein? Mais je crois que vous êtes poli, vous ne voulez pas m'interrompre de ma prédication, n'est-ce pas? Vous avez fait le choix de servir Dieu. Je vous propose aujourd'hui de continuer. Alors, il s'était arrêté au verset 24 et je vous propose, frères et sœurs, de continuer au verset 25. Mon frère, est-ce que ça te dérange si je change de micro? J'aurais aimé un qui est sans fil, qui soit sans fil. Merci beaucoup. Merci. Nous faisons lecture, frères et sœurs, à partir de Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coulée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, j'en peux de froid? Ne vous inquiétons point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Nous allons nous arrêter particulièrement, frères et sœurs, vous l'avez compris, sur le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La version Semeur dit ceci, la vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Juste deux mots, frères et sœurs, sur la cohésion du discours. À partir du verset 25, on a l'impression, simplement l'impression, qu'on passe à autre chose. Au verset 19 de Matthieu 6, on parle des richesses. Et là, au verset 25, on parle des inquiétudes. On a l'impression qu'on passe à autre chose. Non, absolument pas. Absolument pas. Le discours se tient et il est logique. Depuis le verset 19, il y a un fil conducteur qui est précisé, dont l'accent est mis sur le verbe grec que l'auteur a employé, qui signifie ne pas s'inquiéter, ne pas craindre, ne pas avoir le souci, ne pas se mettre en souci. Ce verbe grec, dans son étymologie, veut dire sans partage, ne pas être partagé. Donc, depuis le verset 19, quand Jésus nous parle des richesses de ce monde, il dit simplement, attention, il y a les richesses de ce monde, il y a nos besoins de tous les jours, ce qu'on vient de dire. Attention, quoi qu'il en soit, par rapport aux richesses ou par rapport à nos besoins, il ne faut pas que vos cœurs soient partagés. Ce texte nous parle de l'intégrité, de la foi et de la confiance qu'on a dans la parole de Dieu. Quand notre Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez pas », mais nous sommes comme ça. Quand on nous dit de ne pas faire, on fait le contraire. N'est-ce pas? Au supermarché, ne pas toucher aux raisins. On s'est compris. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à cette ligne directive de ne pas avoir de cœur partagé, que Jésus pose cette question, est-ce que la vie ne vaut pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je passerai, frères et sœurs, sur les normes de valeur, les exemples que Jésus prend concernant le blé, l'herbe, les oiseaux du ciel, Salomon. Je ne dirai rien dessus et pourtant, le rapport est avéré. Je poserai cette question. Quelle est la valeur de la vie? Quand nous voyons ce que nous voyons à la télévision, quand nous entendons des choses, même dans notre belle Martinique, quand nous entendons qu'un jeune homme de 18 ans a perdu la vie, parce qu'on l'a confondu avec un autre. Quelle est la valeur de la vie? Qu'est-ce que l'humain attribue à son semblable humain? Or, ça veut dire que l'homme est un loup pour l'homme. J'irai plus loin en te posant la question, quelle est la valeur de ta vie? Est-ce que tu vis simplement comme ça, au petit bonheur la chance, comme on aime dire chez nous? Ou bien est-ce que tu as pris conscience que tu as une vie et que, à la limite, je pourrais dire que tu n'es que locataire, tu n'es même pas propriétaire de ta vie. Tu jouis de certains moments de l'espace-temps, ici-bas. Quand une situation devient difficile, quand ça perdure, nous disons, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas une vie, il faut que ça change. En proie à un problème de santé, il y a, heureusement, Dieu merci, des résilients qui disent, je vivrai coûte que coûte, cette maladie ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie. On voit des personnes malades, permettez-moi l'expression, ils font des miracles. Et on se dit, mais ils sont malades. Ils sont handicapés et pourtant, moi qui suis bien, je ne fais pas le tiers de ce qu'ils font. Ça donne du peps quand même. Ça donne à réfléchir. Et aussi, on entend, quelquefois, ma vie n'a plus de valeur. En cette bagaille, on va attendre, c'est le mot. Frères et sœurs, il faut savoir entendre ça si un jour vous entendez cela. Ça veut dire que la personne, elle confesse son état, mais il ne faut pas vous dire, eh ben mort, hein. Faut pas nous dire ça. Nous sommes, nous l'avons vu dans le livre de Matthieu, nous sommes celles et lumières du monde. Nous devons apporter de la lumière dans cet été. Il faut que nous lui parlons de l'espoir qui nous a visité un jour et qui est resté en nous, de Jésus-Christ de Nazareth, qui peut rebooster, qui peut redosser vie. Jésus est venu éteindre le petit lumignon qui fume. N'est-ce pas? Donc à ces personnes, il faut leur dire, mais ailleurs pourquoi ailleurs? Jésus est capable. Nous avons tous, frères et sœurs, entendu, nous avons prononcé ces phrases. Et dans mon déroulement, c'est la première fois que je perds ici, j'ai choisi un déroulement un peu bizarre. Oui. Je vais partir de ce qui est périssable pour aller vers ce qui est éternel concernant la valeur de la vie, concernant nous, humains. Je vais parler du corps, après de l'âme et de l'esprit, après de cette partie spirituelle. Vous avez fait après le déroulement pour qu'on ait une valeur de qui nous sommes et de ce que la vie peut représenter pour nous. Alors j'ai cherché sur un site de science. Je veux bien appeler ma soeur, mais je n'ai pas ton numéro de téléphone. De chercher sur un site de science et pour voir de quoi l'homme est composé. Et ce site est bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auteur, il y a quelqu'un, un professeur, je pense, en science, qui a comparé. C'est un tableau comparatif où la valeur du corps avec ce qu'on trouve au tiers vis, c'est-à-dire le sel, le zinc, l'aluminium, l'eau et compagnie, et a mis une référence chiffrée. Toutes valeurs confondues, frères et sœurs. Nous valons 35 euros. Je m'explique, c'est-à-dire un peu de sel, un peu de zinc, un peu d'aluminium, un peu de ceci et cela, par rapport à la quantité, il a chiffré, et ça fait 35 euros. Pour moi, et pour ceux qui sont comme moi un peu plus gros, on va monter à 40. D'accord? Et nous imaginons, frères et sœurs, cette valeur humaine, de manière scientifique, c'est vrai, nous sommes composés de ça, mais avec ça seulement, un peu de zinc, un peu de fer, un peu de magnésium, beaucoup d'eau, puisque l'eau est de proportions plus élevées dans le corps. Avec ça, on peut penser, réfléchir, dessiner, louer le Seigneur, voir, agir. C'est déjà, je me crie, louer soit l'Éternel. Parce que je suis une créature merveilleuse. D'accord? Et avec ceci, j'ajoute une valeur. Il y a le corps, mais notre valeur n'est pas que physique. J'ajoute une valeur, frères et sœurs, qui est l'esprit et l'âme. Ce sont des valeurs ajoutées. Et vous avez tout de suite compris. Sincèrement. Regardez un peu, peut-être, par la médecine, il faut saisir. Vous savez ce que j'aime avec vous? Vous savez ce que j'aime avec vous? C'est que vous êtes libre. Vous êtes libre, mais c'est vrai, j'aurais dû mettre mes lunettes. Mes pailles se sont illuminées. On reprend par un petit but. valeur ajoutée, l'esprit, l'âme, les facultés intellectuelles, la perception. Et quoi qu'on puisse dire de notre personne, nous-mêmes, avec nos propres valeurs, ah, je ne suis pas bon, je suis ceci, je suis cela, quoi que nous puissions dire, frères et sœurs, il y a des personnes qui nous aiment tels que nous sommes. Ah oui, il y a nos voisins. Alors, avant les voisins, il y a les parents. Parents, grands-parents, enfants, nièces, tontons et compagnie, ces personnes nous aiment. Et c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que l'amour ne regarde pas à l'apparence. Papa, préparez-vous. Parce que quand la fille va amener les amoureux, on aura beau jeûner, et le Seigneur, c'est ce qu'elle a pu choisir. C'est l'être de son cœur, hein? C'est son amour. C'est pas notre choix. J'ajoute notre valeur. J'ajoute les sentiments. D'une manière générale, nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin d'être aimé. Quelqu'un ne peut pas vivre sans amour. Sans quoi, il y aura un manque en lui. On a besoin de sourire. On a besoin d'une tape sur l'épaule. On a besoin de regard. Autour de nous, il y a des personnes qui nous aiment. Et ça doit faire partie de l'équation valeur de ma vie. Ces personnes nous aiment pour ce qui on est, avec notre personnalité, mon physique et j'en passe. Et je dois te dire, quoi que tu vives, tu as de la valeur pour ces personnes. Mais souvent on entend, ah, mon père est moins. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il y a des personnes qui nous aiment, frères et sœurs, et qui ne le démontrent pas, qui n'arrivent pas à le dire. Le top du top, c'est que les gens puissent le dire, le manifester. Mais il y a des personnes qui nous aiment, et au fond de leur cœur, quand ils nous voient, c'est un grand boum. Ah, il est là ce matin. Et quand tu n'es pas là, c'est une petite tristesse. Ah, mon frère, rassure-moi là, pourquoi? C'est comme ça. Tu as ta valeur aux yeux des autres. Maintenant, comment toi, tu te mesures par rapport à ça? Quelle est la valeur de ta vie? J'ajoute une autre valeur, c'est le spirituel. Alors, quand je dis le spirituel, je fais attention. Maintenant, tout est spirituel. D'accord? Quand je dis spirituel, je reste dans les normes bibliques. Quand je dis spirituel, je parle de Dieu, je parle de Jésus, je parle de son Esprit Saint. J'ajoute cette valeur à l'homme. Je vous ai dit préalablement que j'ai consulté un site de science, mais aussi j'ai consulté ma Bible. Et je voudrais te dire que la Bible n'est pas un livre de biologie. La Bible n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de géographie. La Bible est la parole de Dieu. Il y a des notions de tout ça dans la Bible. D'accord? Mais ce n'est pas un livre de science. La Bible est la parole de Dieu. Et, mon frère, ma soeur, cette Bible que nous chérissons tant, cette parole que nous aimons, elle parle de ce qui fait la valeur infinie de l'être humain, c'est-à-dire l'apport divin en nous. Elle montre comment Dieu nous aime, comment Dieu peut nous aider et peut faire des miracles dans notre vie. Et ce Dieu que nous connaissons ne fait pas d'économie vis-à-vis de nous. Dieu ne dit pas vis-à-vis de ma chair, eh bien, je veux l'aimer à 85% vis-à-vis de mon frère. Ah non, quoi qu'il y ait ma chair, je veux l'aimer à 75%. En Dieu, il n'y a pas ça. Dieu nous aime tous d'un amour égal. Dieu nous chérit, il nous aime, il veut notre bien. Il veut notre bien tant et si bien qu'il a donné Jésus. Et avec Jésus, il nous a donné son Esprit Saint. Et d'une manière générale, le texte biblique a raison de poser l'abord divin comme base de notre théologie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes rien sans Dieu. J'ouvre une parenthèse. Vous connaissez l'histoire de l'anneau? Vous connaissez pas l'histoire de l'anneau? Ce sont deux anneaux. Je ne veux pas être long. Ce sont deux anneaux qui discutent. Et l'un dit à l'autre, tu imagines, il y a quelques jours, je marchais dans la rue et les gens jetaient leurs vêtements devant moi. Ils jetaient des rameaux. Et l'autre anneau qui dit, ah oui, mais il le faisait comme ça. Il disait, non, non, parce que j'avais une personnalité. J'avais Jésus. Et l'autre, il continue à manger, il dit, est-ce que tu as tiré le son de ça? Et l'autre lui dit, non, quelle leçon je dois en tirer? Eh bien, c'est simple, sans Jésus, tu n'es rien. Frères et sœurs, sans Dieu, notre vie, c'est une vie, d'accord, mais ce n'est pas une vie à la gloire de Dieu. Et pour que notre vie soit à la gloire de Dieu, il faut qu'on ait un abord divin. Il faut que Dieu dépose quelque chose en nous, et cette chose va nous pousser à nous conformer à ses directives, nous conformer à sa volonté. C'est ainsi que l'homme a de la valeur, et c'est ainsi qu'on comprendra vraiment notre existence humaine. Alors, vous me direz, mon frère, les exclus, ceux qui n'ont plus d'argent, ceux qui n'ont plus d'amour, plus de famille, ceux que la société rejette, ceux envers qui on n'a plus envie de tourner la tête quand on marche, quand on les croise sur le trottoir. Ceux qui nous font pitié, mais on n'ose pas faire un geste vis-à-vis d'eux. Parce que ce n'est pas convenable que je puisse m'arrêter auprès de clochards ou du fier à la causette. Ce n'est pas convenable. Il ne fait pas partie de mon monde. Et pourtant, mon frère, ma soeur, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté dans nos vies. Parce qu'on était rien, on était des gens sans valeur. Et je vous conseille que, vis-à-vis des exclus de la société, il y a une espérance et un espoir. David pouvait dire, au psaume 27, même si mon père et ma mère m'abandonnent, je resterai toujours pour l'Éternel. Quelqu'un a accueilli et il me gardera dans son amour. Je vous ai lu la version sommaire. Cela veut dire que même ces personnes, pour Dieu, ces personnes ont une valeur. Absolument. On aime dire chez nous, tout le monde c'est mon. Et c'est vrai, aux yeux de Dieu, tout le monde c'est mon. Donc, nous, peuple de Dieu, qui avons goûté cet amour de Dieu, cette reconnaissance de Dieu, ayant aussi envers les exclus de la société un regard d'âme. Merci, ma soeur. D'accord? Parce qu'on a connu ça. Nous sommes aimés par Dieu et par ceux qui nous environnent, malgré nos défauts, malgré nos erreurs, nos difficultés à faire le bien. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Et nous pensons quelquefois que nous sommes meilleurs que celui qui est à notre gauche ou à notre droite. Je reste dans le cadre de l'Église. Si j'en sors du cadre de l'Église, j'en sais pire. Ah Seigneur, il est catholique, il ne te connaît pas, etc. Mais il est créé à l'image de Dieu, mon frère. La seule chose qui nous diffère, c'est que voici les convertis, l'image de Dieu en lui. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, l'image de Dieu est froissée en lui. D'accord? Donc Dieu ne se manifeste pas. Son image est froissée. À la conversion, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu renouvelle son image en nous. D'accord?
Et tu pourras prendre une journée et demie, deux jours, une semaine, pour remettre l'image de Dieu de manière parfaite dans ta vie, tu ne vas pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le passé. Dieu rétablit son image en nous, mais regarde bien, la feuille n'est pas comme celle-ci. D'accord? Elle est froissée. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que nous devons avoir de l'humilité. N'est-ce pas? Dieu a restauré son image en moi, mais comme il y a une, je dirais, une cohabitation de l'humain et du divin dans ce corps, chose merveilleuse, n'est-ce pas? Comment un Dieu si grand peut-il venir cohabiter en moi? C'est merveilleux. Donc nous devons être ô combien humbles pour se dire, si Dieu a fait ça dans ma vie, c'est qu'un jour, son esprit m'a saisi et que je me suis montré intelligent et intelligente de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. D'accord? Donc, l'autre, je dois tout faire pour l'attirer à Christ. Vous êtes lumière et sel de la terre. Dieu nous aime. Et Dieu nous aime malgré nos imperfections. Parce que nous ne sommes pas des êtres parfait. Quand nous faisons quelque chose, alors je me mets, le pasteur l'a parlé dernièrement, de l'anthropomorphisme, de l'adjectif employé et attribué à Dieu pour qu'on puisse comprendre de manière humaine comment Dieu agit. N'est-ce pas? Quand les yeux de l'Éternel voient que nous sommes sur la bonne voie et que nous obéissons à ses commandements, je le dis comme ça, de manière humaine, Dieu sourit. Je ne sais pas s'il sourit, je ne sais pas, mais je le dis maintenant. Dieu sourit, il prend plaisir. Elle a travaillé, elle a eu son diplôme. Dieu est content. D'accord? Mais mon ami, mon frère, quand nous manquons, je veux dire ça comme ça, quand nous manquons, quand nous faillons, est-ce que Dieu ne nous aime pas comme il nous aimait avant? Je me suis mis à la place d'un parent qui a son enfant. Et du jour où nous demain une voiture, un accident, et l'enfant est handicapé, est-ce que le parent ne va pas l'aimer comme avant? Mais oui, sinon l'amour, c'est pas ça l'amour. Si nous aimons la personne tant qu'elle va dans notre sens, et que le jour où ça déraille, on dit, ah ouais, mon ben, c'est quoi? C'est pas de l'amour. Est-ce que tu comprends? On doit aimer en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Rappelez-vous du jour de votre mariage où l'officier d'état civil a dit « Dans l'abondance comme dans la disette. » Continuons, revenons à notre texte. Dieu nous aide, point d'un. Et on aura beau faire comme des enfants gâtés, non, l'amour de Dieu ne va pas changer à notre égard. Il nous aimera de l'amour inconditionnel. Mon enfant, je t'aime. C'est pas la peine de faire l'enfant capricieux, je t'aime, c'est tout. Accepte. Et je crois que l'une des problématiques humaines, c'est d'accepter l'amour. Mon épouse en sait quelque chose. Frères et sœurs, si l'acceptation de l'amour est une caractéristique chez l'humain, il y a aussi une deuxième caractéristique concernant notre valeur. C'est que nous regardons avec de mauvaises lunettes. N'est-ce pas, mince? Elle sourit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et un jour, un pasteur m'a dit, mon frère, il faut que tu changes de lunettes, hein? Pourquoi? Parce que j'ai pris un Calimero. Je m'explique pour ceux qui ne savent pas. J'avais toujours ma coquille et puis je disais, oui, c'est bien sûr, les gens sont méchants, j'étais comme ça. Et même quelquefois, mon épouse me dit, oh, arrête de faire ton Fernand, ça suffit. Oui, je suis comme ça. Je fais mon Fernand, quelquefois, j'avais l'ancien Fernand. Je retourne dans des trucs, des jugements de valeur, des ceci et cela. Et mon épouse me dit, oh, tu... Donc, Seigneur, merci. Pourquoi je dis qu'il faut qu'on change de vision? Parce que nous avons une vision erronée de nous-mêmes. Nous avons une vision erronée de notre valeur. N'est-ce pas? Ah, madame, moi, j'ai dit, moi, pas bon. Ben, si madame, moi, j'ai dit, pas bon, c'est qu'on fait un bagage pas bon. Mandez pardon et puis essayez de ranger la situation. N'est-ce pas? Ben oui. Frère, il faut que nous ayons les lunettes de Dieu. Pour avoir la vision de Dieu, il faut les lunettes de Dieu. Et je te propose ce matin de changer tes lunettes. Je ne sais pas ce que tu vis, par quel chemin tu passes, je ne sais pas ce qui a marqué ton âme et ta conscience. Mais je dois te dire une chose, tu as de la valeur. Je ne sais pas, vous les jeunes de cette salle, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire plus tard? Comment vous allez gérer votre corps? Votre corps qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, je suis libre de faire ce que je veux. Non! Si tu es bon, tu es bon. Ah non, nous qui sommes un peu plus âgés, qu'est-ce qu'on dit de la valeur de notre vie? Est-ce qu'on dit, Seigneur, c'est fini pour moi? Tu t'es servi de moi pendant un moment maintenant, c'est fini, je n'ai aucune plus valeur. Seigneur, pour moi, pour aller à côté de toi. C'est faux, frères et sœurs! C'est faux de dire ça. Pourquoi? Parce que regardez le prophète Élie. Quand il est entré dans la grotte, c'est ce qu'il a demandé au Seigneur. Oh, je ne suis pas meilleur que mes pères. Quel rapport de valeur a-t-il par rapport aux autres? Si on se compare aux autres, on aura un problème. J'ai entendu un jour le pasteur Hans Peter enseigner. Frères et sœurs, c'est mon épouse qui m'a relevé quand je suis rentré à la maison. On a un prédicateur enseignant. Et, d'accord. Mais quand j'ai entendu cet homme enseigner une fois, je me suis dit, ah bon, pas quand même. Ah, ma soeur, ça m'a donné un coup au moral. Je me suis dit, oui, les gens te machinent, mais. Mon épouse, par la grâce de Dieu, a pu. D'accord. Si on se compare aux autres, on va trouver des défauts. Et il y a un contexte, il y a un ensemble de choses dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand on construisait, quand Israël construisait le tabernacle, la tente de la rencontre, il y avait un matériel qui s'appelait la cuve, où on devait se laver dedans. D'accord? Mais symboliquement, frères et sœurs, c'est un parallèle avec la parole de Dieu. Il y avait le miroir aussi. Le miroir nous renvoie à nous-mêmes. Le miroir ne nous renvoie pas à quelqu'un d'autre. Si on se compare à l'autre, c'est fini. Il faut se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Et quelle est ma valeur? Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur pour Dieu et le Seigneur va encore t'utiliser. Le Seigneur, c'est mon frère Nicolas qui avait fait cette étude sur Dieu, le parent parfait, c'est ça? Dieu a beaucoup d'humour. Dieu peut nous laisser un moment là, pour qu'on cogite, pour qu'on médite, mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce que nous avons de la valeur pour Dieu. Alors certainement tu as commis une erreur et tu te dis que c'est fini, Dieu m'a abandonné, que ton nom n'est plus inscrit dans le livre de vie. Mais c'est ça, c'est toi qui le dis. Est-ce que l'Esprit Saint t'a dit ça, que c'est fini? L'Esprit Saint est là, non pas pour condamner, mais pour relever. L'Esprit Saint est notre compagnon afin que nous puissions arriver dans le royaume de Dieu. Dieu ne condamne pas. Alors c'est ça aussi, nos valeurs sur les choses. D'accord? J'ai fait une bêtise, je ne vais pas dire à maman. Alors il faut dire à maman et à papa. On se dit, ah oui, mais si je dis à maman et à papa, je vais prendre des coups. Normal, c'est une bêtise. Normal. Je vois mal le parent. Tu vas dire, papa, tu sais, j'ai mis le feu à la voiture du voisin. Il va te dire, ah, oh, c'est bien. Non. C'est normal. Quand on fait une bêtise, Dieu nous reprend. Mais après, même dans sa correction, et le texte biblique nous l'a dit, il nous corrige parce qu'il nous aime. Donc même dans nos erreurs, Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Mon frère, ma soeur, reprends le flambeau, reprends la course, reprends le chemin. Ne t'arrête pas au bord du chemin. Parce que ta vie a du prix pour Dieu. Et j'en conclurai cela en valeur, en termes de prix. On l'a chanté ce matin. Toi seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange. Mais il y a un théologien qui a dit ceci. Il n'y a pas de couronne sans croix. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. D'accord ? Jésus a souffert. La valeur de la trahison, c'était 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes ta vie à plus que ça ? Je sais qu'il est délicat d'estimer sa propre vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu veux en faire? Malgré les échecs, malgré ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas rester au bord du chemin ou bien est-ce que tu vas entendre ce fameux discours du sermon sur la montagne? Est-ce que la vie ne vaut pas plus que la nourriture, le corps, plus que le vêtement? Et pourtant, Dieu te donne ce dont tu as besoin tous les jours. Dis-lui merci. J'ai une pensée pour les femmes agressées, maltraitées, et quel que soit le contexte qui ont dû faire un avortement. On est en plein dedans sur la valeur de la vie. Et je sais, parce que je l'expérimente, parce que des femmes sont venues me voir, pour me confesser cela. Deux fois, et dans ces deux fois, j'ai vu une grande souffrance, quelque chose de très lourd qu'elle portait au fond d'elle. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. D'accord ? Je voulais te dire, si dans le plus grand des hasards, tu as pratiqué cette chose et que c'est sur ta conscience, il y a un pasteur ici, il y a des anciens qui sont là pour t'écouter. D'accord ? Et la Bible déclare que Dieu ne t'est pas condamné dans l'ignorance, premièrement. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour les pardonner. Si ça s'est passé, si tu as pris cette décision, volontaire ou pas, si c'est quelqu'un qui t'a poussé à le faire, tu as des serviteurs de Dieu qui sont là pour t'aider. D'accord ? Je voudrais qu'on prenne le chant avant de conclure. Ce chant qui dit « Majesté,